L'opération commencera dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1.
Zap, zap.
L'émission
de Pierre de Sang.
Je suppose que vous vous demandez ce que vous faites ici.
Je ne veux pas conclure un quelconque marché. J'ai démissionné. Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, ni me faire classer, puis déclasser ou numéroter. Ma vie m'appartient. Quelle farce.
Pourquoi ne pas nous mettre chacun dans une cellule jusqu'à ce que nous ayons avoué vous en finiriez une bonne fois pour toutes ?
Musical ou thématique, rendez-vous tous les lundis à 19h
sur Radio Campus 106.6.
La société qui est bien foutue. Elle met des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître.
C'est ça.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Pour celles et ceux qui ont raté l'épisode précédent, Zabzala poursuit son exploration cochonne en vous causant de l'Homo Porcus, qui est aussi le titre d'un texte paru dans le numéro 4 de l'excellente revue Amère. Ce texte démontre, sans jamais tergiverser, de quelle manière les conditions de vie de l'être humain contemporain sont comparables à celles de son cousin, le porc, ou comment la société marchande a conduit au rapprochement de l'homme et du cochon, à tel point qu'il nous est aujourd'hui de plus en plus difficile de distinguer l'un de l'autre. Sur ce, bonne écoute sur Radio Campus 106,6.
Conférence de l'Université Populaire. Aujourd'hui, une philosophie cochonne.
Je suis venu pour vous faire prendre conscience d'un immense danger qui menace notre planète. Vous voyez, il existe quelque chose d'effrayant qui met en péril notre existence et qui pourrait même provoquer l'extinction de toute l'humanité. Je veux parler, bien entendu, du terrible homourspore.
L'homourspore ?
C'est une immonde créature qui erre seule sur Terre. Elle est moitié homme, moitié ours et moitié porc. Certaines personnes prétendent que l'homourspore n'existe pas. Mais moi, je suis venu pour vous dire que l'homourspore est une réalité. Et je peux vous assurer qu'il existe. Je suis très sérieux. L'homourspore se fiche de savoir qui vous êtes ou ce que vous avez fait. L'homourspore veut simplement votre peau. Je suis super sérieux.
Nous allons dresser un millier de porcs à patrouiller autour des villages, à repérer les terroristes embusqués et à détecter des armes dans un large périmètre. En outre, ces animaux sont considérés comme dangereux par l'islam. Et selon la foi musulmane, un terroriste qui a été au contact d'un porc n'a plus droit aux 7 vierges qu'on lui promet au paradis. Ben Yaakov, du bataillon hébreu, indique que les porcs seront achetés grâce à des dons financiers et seront fournis essentiellement par le kibboutz Lahav, dans le Negev, qui est déjà spécialisé dans le dressage de cochons renifleurs de mines. Les cochons de garde de Judée-Samarie, article de Ma'ariv, repris dans Courrier International le 6 novembre 2003.
Il faut certainement comprendre le tabou religieux qui pèse sur le porc, en particulier chez les musulmans et les juifs, comme l'expression d'un malaise existentiel de l'homme face à son double porcin. La religion, c'est bien connu, se caractérise par un déni de la bestialité humaine, un refus de considérer la part animale de l'homme. Le rapport qu'entretiennent les principales religions monothéistes avec les porcs est à chercher dans ce mépris de la vie terrestre, et en particulier de l'homme et de son corollaire, le cochon. Dieu a fait le porc à l'image de l'homme. Les juifs et les musulmans ont tabouisé le porc en s'interdisant notamment de le manger, non pas pour des raisons hygiéniques et climatiques, ces explications sont aujourd'hui largement réfutées, mais parce que, plus plausible, l'image que le cochon renvoie à l'homme distille chez ce dernier un profond malaise existentiel, qui remet en doute sa véritable nature, un doute que ne peut tolérer l'autorité religieuse. Il ressort deux grandes hypothèses qui tendent à expliquer ce tabou. La première est la question du cannibalisme, cette impression pour l'humain, en mangeant du cochon, de manger un de ses congénères. La ressemblance est telle entre l'homme et le cochon que certains chercheurs affirment que la chair humaine, et notamment de l'enfant, a un goût très proche de celui de la chair porcine. Comme le dit d'ailleurs Michel Pastoureau, je cite, « Les rares témoignages dont nous disposons, de la part d'humains ayant mangé de la chair humaine, souligne tout ce que ça a le goût du cochon, ce qui n'est pas étonnant puisque le patrimoine génétique commun est considérable. On dit toujours que c'est admirable dans le cas du chimpanzé, qui a 97% d'ADN commun avec l'homme, mais chez le cochon, c'est 95%. » Fin de citation. La seconde hypothèse de ce tabou est la difficulté pendant longtemps qu'ont eu les humains à ranger le porc dans une catégorie répertoriée, à le classifier dans une famille ou une espèce animale connue. Perplexe, il ne comprenait pas que la bête avait comme tous les ruminants le sabot fendu alors même qu'elle ne ruminait pas.
« Vous ne mangerez pas le porc, qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. » Lévitique 11, 7.
« Oh, il est gentil, papa. Il nous disait de faire gaffe à l'homme ours porc. »«
L'homme ours porc ? » ?»«
Il est moitié homme, moitié ours porc. »«
Non, vieux, il est moitié homme, moitié ours, moitié porc. »«
Non, c'est n'importe quoi. »«
Peut-être qu'il est moitié ours, moitié homme porc. » »«
Les enfants, il n'a jamais existé aucun homme ours porc. »
Pas de porc. Tu manges pas de porc. Je mange pas de porc.
Pas de porc. Pas de porc. Pas de porc. Nous on mange pas de porc.
Tu comprends pourquoi? Pas de concession dans mon assiette. Dès que je parle de porc, ça part en couille. J'entends des grognements de trucs de cochon dans la foule. Faut de la sauce et du mouton sur ma semoule. Mais va pas me faire croire que bouffer du porc c'est cool.
Je répète.
Dès que je parle de porc, ça part en couille. J'entends des grognements de trucs de cochon dans la foule. Faut de la sauce et du mouton sur ma semoule. Mais va pas me faire croire que bouffer du porc c'est cool. Alors pas de porc dans mon plat, même pas une tranche de bacon. Garde pour toi ton putain de jambon de Bayonne. Matière fécale.
Batman. Devenir flic ou procureur d'un tribunal. Batman. Si par malheur le porc prenait forme humaine. Batman. Il tiendrait les propos de ce bâtard de Le Pen. Batman. En microphone imitateur Chicken Boubou. Batman. Faut qu'à tous ceux qui ont boycotté mon peu gros. Pour sa gaulerie les mecs ont essayé au trou. Batman. Si t'aimes le porc,
déconne toi et puis c'est tout.
Le cochon n'échappe évidemment pas à la déconsidération et au mépris dans la religion chrétienne, même si la relation que celle-ci entretient avec l'animal a toujours été ambivalente. Que l'on songe par exemple à saint Antoine, cet anachorète du IVe siècle qui aimait se promener avec ses cochons. Le culte voué à celui qui deviendra le patron des charcutiers a même fait du cochon un symbole de régénérescence et de guérison. Une des raisons de la tolérance chrétienne à l'égard de cet animal satanique est le souci de se démarquer et de se distinguer, avec provocation et ostentation, du judaïsme. Dans un système d'inversion témoignant de sa virulence anti-judaïque, le christianisme a par exemple durant tout le Moyen-Âge utilisé le cochon pour désigner le juif, ce mangeur d'enfants. Aujourd'hui, c'est le musulman qui fait les frais de ce genre d'attaque et de stigmatisation. Toutefois, le porc n'a pas toujours eu une image négative dans la religion. Dans de nombreux rites antiques, le verra ou la truie sont liés symboliquement aux moissons, à la nature fertile, à la fécondité. À en croire Virgile, la truie d'aînée aurait mis bas 30 porcelets à l'endroit même où son propriétaire fonda la ville de Lavinium. Aîné étant, suivant la légende, l'ancêtre de Romulus et Rémus, il n'y a qu'un pas pour faire de sa truie l'ancêtre de la célèbre louve romaine. En outre, l'interdit du porc dans les religions juives et musulmanes est à relativiser. Aujourd'hui, Israël autorise des élevages de l'animal impur dans certaines de ses régions. Et on omet généralement de dire que le Coran consent à ses ouailles, sous certaines conditions exceptionneles, à manger du halouf. Dieu n'est pas chien.
Oh les croyants ! Mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées. Et remerciez Dieu, si c'est lui que vous adorez. Certes, il vous est interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc, et ce sur quoi on a invoqué un autre que Dieu. Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint, sans toutefois abuser ni transgresser, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. Sourate 2, 172-173.
C'est quoi ça?
C'est des fricadelles. T'en veux?
C'est ce qu'il y a dans une fricadelle. Hein? J'ai vu un reportage là-dessus.
De toute façon, il n'y a pas de porc là-dedans.
Ah, ça, du porc, c'est sûr, il n'y en a pas. Mais tu donnes ça à un chien, il ne le bouffe pas non plus.
Les pourceaux, quand ils me regardent, vomissent. L'Autréamont, les chants de Maldoror, chant 4.
Comme l'a très bien montré Michel Pastoureau, les relations qu'entretiennent les deux bestiaux qui nous intéressent ici sont ambivalentes, si ce n'est ambiguë, faites à la fois d'attirance et de rejet, d'affection et de répulsion. L'explication la plus plausible est à rechercher dans ce cousinage, cette ressemblance physique, biologique, conduisant l'homme moderne à percevoir le cochon comme un reflet de lui-même. Le regard de l'homme moderne se perd dans le regard du cochon, qui lui rappelle en retour l'incertitude de son existence. La vie de l'homme moderne est, à l'instar de celle du porc moderne, problématique, puisqu'aujourd'hui il n'y aurait plus de raison d'être. Toutefois, si la ressemblance entre les deux bêtes est aujourd'hui incontestable, il nous faut préciser qu'elle est la conséquence d'un long processus mimétique, de plusieurs siècles, qui s'est accéléré avec les mouvements révolutionnaires des 18e et 19e siècles. Cette période charnière a donné à l'homme moderne l'illusion de l'émancipation. Elle n'a été en réalité que le moment transitoire du passage d'une forme de domination à une autre, tout en faisant à croire que tout acte et toute décision politique obéirait désormais à l'intérêt commun. Or, cet intérêt commun n'est que l'intérêt de l'économie. C'est l'affirmation et l'acceptation de la condition porcine de l'homme moderne qui s'est jouée alors. Au nom de l'économie, la vie de l'homme moderne s'est retrouvée réduite à une vie de cochon, c'est-à-dire cantonnée à la satisfaction des besoins physiologiques. Et cet homme moderne doit accepter cette condition dès le plus jeune âge, sans grogner, sans couiner, ni grouiner.
Ce soir, c'est à toi que je m'adresse, mon gros porc. Oui, à toi. Ne fais pas semblant de croire que c'est à quelqu'un d'autre que je m'adresse, mon gros porc. C'est bien à toi. Oui, à toi. Avec ton gros ventre, derrière ton bureau, avec ton gros cigare collé sur tes grosses lèvres charnues. Tu commences à être mal à l'aise, hein, mon gros porc. Tu t'es reconnu, hein? Tu commences à avoir de grosses gouttes de sueur qui perlent comme deux grosses perles suaves sur ton gros front gonflé. Il y a longtemps que je voulais te le dire que t'étais un gros porc. T'es mal à l'aise, hein, mon gros porc. Je le vois bien que t'es mal à l'aise. Hein? T'es en train d'essayer de déboutonner ton gros col de chemise avec tes gros doigts boudinés. Tu te souviens, il y a 25 ans, comme t'étais maigre? T'étais peut-être maigre, mais on voyait déjà que tu deviendrais un gros porc. À l'école, tu bouffais comme un porc. Tu chantais comme un porc. Tu parlais comme un porc. Avec les filles aussi, tu te conduisais comme un porc. Hein? En fait, toute ta vie, tu t'es conduit comme un porc. Même en voiture, tu conduis comme un porc. Et je vais te le dire, mon gros porc, t'écris comme un cochon. T'as peut-être des millions de lecteurs, mais t'écris comme un cochon, mon gros porc. Alors je vais te le dire ce soir solennellement. Arrête définitivement d'écrire tes ouvrages de porc, mon gros porc. Change de métier, change de métier. Travaille dans l'import-export, ou alors pars en vacances dans n'importe quel port, dans le port d'Amsterdam, si ça te chante. Mais arrête d'écrire, arrête d'écrire. Définitivement, mon gros porc, je ne te le répéterai pas deux fois. Arrête d'écrire, définitivement, je ne te le répéterai pas deux fois. Voilà. C'était notre grand jeu concours, je me reconnaîtrai. Alors, les deux premiers gros porcs qui m'écriront sur une carte postale « Je me suis reconnu en tant que porc » ne recevront aucune récompense, mais l'essentiel, c'est de participer, hein.
Hé, hey, qui c'est ce porc?
C'est à moi que tu parles.
Oh, il le tape de porc.
C'est à moi que tu parles.
Erreur fatale.
C'est à moi que tu parles.
Ça va chauffer.
On m'appelle Monsieur Porc.
À partir de juin 1791, avant que le roi ne perde définitivement la tête, les caricaturistes anti-royalistes, eux, se la payent joyeusement en peignant Louis XVI sous les traits d'un cochon. Ces caricatures foisonnent et perdureront jusqu'à la fin de la Révolution.
Cet animal a environ 5 pieds et 5 pouces de long. Il marche sur les pieds de derrière comme les hommes. La couleur de son poil est fauve. Il a les yeux bêtes. Il a la gueule assez bien fendue, le mufle rouge, les oreilles grandes, fort peu de crin. Son cri ressemble assez au grognement du porc. Il est vorace par nature. Il mange, ou plutôt, il dévore avec malpropreté tout ce qu'on lui jette. Il est ivrogne et ne cesse de boire depuis son lever jusqu'à son coucher. Il est âgé de 34 à 36 ans. Il est né à Versailles. Et on lui a donné le sobriquet de Louis XVI. Description de la ménagerie royale d'animaux vivants, pamphlet datant des années 1791-1792.
Cette caricature, omniprésente à l'époque, qui vise le personnage le plus élevé dans la hiérarchie sociale d'Ancien Régime, doit être interprétée sur deux niveaux. D'abord, la caricature porcine a pour objectif de rabaisser et d'humilier le roi à travers cet animal infâme, paresseux et gras, dont la seule destinée est d'être tué pour être bouffé. Il s'agit donc ici d'une attaque visant le pouvoir, à travers la mise à mort symbolique du souverain. La guillotine n'est qu'un billot de boucher amélioré, finalement. Mais sur un second plan, la caricature porcine décrit la chute du souverain, qui, du sommet de la pyramide sociale, tombe au plus bas, à savoir au milieu de la ferme, au cœur du monde paysan, dont le cochon est à l'époque l'animal familier. Le roi cochon chute de son trône et se retrouve au même niveau que ses sujets, sur un pied de cochon d'égalité. Il est intéressant de remarquer que la transformation zoomorphique du roi dans ses caricatures est le plus souvent partielle, ne lui attribuant qu'une partie du corps du verra, la tête ou le corps du porc. En caricaturant ainsi le roi, avec cette indécision qui le reconnaît à la fois homme et verra, les anti-royalistes soulignent, plus ou moins inconsciemment, la proximité qui déjà se dessine entre la condition du peuple et celle du porc. Nous voyons ici les prémices d'une affirmation de l'identité porcine chez l'homme moderne. Un siècle plus tard, la société marchande poursuit sa construction identitaire à travers la symbolique cochonne. Cette mise en ordre sociale, politique et économique se décrit et se décrivent porchère et porcine. On constate par exemple que dans la deuxième moitié du XIXe siècle, jusqu'au début du XXe, c'est-à-dire durant l'affermissement et la consolidation en France de la République, le cochon est l'animal le plus employé dans la caricature politique. Même si l'usage du cochon dans la représentation satirique remonte au moins au XVIe siècle, au XIXe siècle, elle se généralise, et ce jusqu'à la Première Guerre mondiale, cette guerre fondatrice que tout le monde s'accorde aujourd'hui à qualifier, littéralement, de boucherie, inaugurant un siècle de carnage à l'échelle industrielle.
Et sinon, les queues, c'est dû aussi à l'élevage concentrationnaire. Pour gagner un porc, une place de porc dans l'engraissement, il faut couper les queues, sinon il y a du cannibalisme qui s'installe dans l'engraissement. Plus ils sont serrés, puis plus ils deviennent cannibales. Quoi. Dès qu'il y a un porcelet qui fait un retournement d'anus ou qui a une queue qui saigne un peu, il est à moitié dévoré. Quoi.
Usant de tous les attributs symboliques de la bête, saleté, luxure, bêtise, goinfrerie, etc., la caricature n'épargne à l'époque aucune tendance politique et intellectuelle, aucun groupe social ou religieux. Tout est bon dans le porc, même ses travers. On notera également que dans les années 20, des caricaturistes allemands comme George Gors, Hans Grunding, etc., ne se privent pas d'attaquer l'intégrité physique et morale du bourgeois en figurant ce symbole de décadence et de vulgarité en cochon, avant de l'évincer 10 ans plus tard par la figure du porc nazi. Bon, parce que le temps presse, nous retiendrons cette caricature, encore actuelle, attribuée à Walter Crane et datant des années 1890, représentant 3 allégories de système politique. Le premier, la monarchie absolue, qui montre sous la bannière « Ma volonté est la seule loi », un énorme verra couronné qui s'empiffre à l'écart du peuple porcin. Le second, la République bourgeoise, décrivant sous la bannière « libre concurrence », une foule de cochons se battant entre eux pour atteindre l'auge collective. Et le troisième, la République sociale, qui sous l'inscription « à chacun sa part » nous montre des porcs alignés chacun dans leur compartiment, disciplinés, qui ne font que baffrer. Notons que l'expression « République sociale » apparaît au moment de la Révolution de 1848, et Marx l'utilise, notamment dans la guerre civile en France, pour désigner un modèle révolutionnaire de type Commune de Paris.
Spider cochon, il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un cochon. Prends garde, Spider cochon.
Tu m'as quitté, j'ai trop de peine pour un simple bouquet de persil. Elle s'était dit, mon petit salé, qu'un de nous devait dessaler. Cochon de sort, c'est toi qui es mort, et celui qui vivra verra. Mon morceau de porcelaine. Tu m'as quitté quand bien même je savourerai avec délice tes jolis petits pieds panés. Au petit navet, fait appel à ma bouche et j'ose avant de regagner la nuit déposer ce baiser. Au pied de mon amour détruit.
Aujourd'hui, on reste chez les porcs, car hier se tenait au Salon de l'Agriculture le pot du Club du Cochon. C'est un club de personnalités, notamment de députés, qui défendent l'industrie du porc. On a croisé Dominique Bussereau et le modem Jean Lassalle, qui nous a sorti la meilleure phrase du jour.
Qui est votre cochon préféré ?
Mon cochon préféré ? C'est une petite cochonne. Ah, c'est mon épouse.
C'est le modem.
Il était enfin venu, le jour où je fus un pourceau. J'essayais mes dents sur l'écorce des arbres. Mon groin, je le contemplais avec délice. L'autre est amont, les champs de Maldoror, chant 4.
Le spectacle paranoïaque et angoissé du système capitaliste, confronté à l'éventualité d'une épidémie de grippe A, a montré comme ce dernier est peu assuré sur son devenir. Prêt, dans un mouvement de panique, à aller jusqu'à remettre en question le postulat même de l'économisme, à savoir le temps infini. La défense du système, dans un réflexe pavlovien, a été de rejeter sur le porc la responsabilité de cette pandémie annoncée, sans démontrer pour autant la culpabilité de l'animal, accusé d'être à lui seul à l'origine de ce virus grippal.
Les cochons ont leur propre forme de grippe, la grippe porcine. Comme ils sont assez proches génétiquement de l'espèce humaine, il arrive qu'ils transmettent le virus à un homme. Mais ce qui est inquiétant maintenant, c'est qu'il y a un virus transmissible d'homme à homme.
Nous sommes très surpris d'apprendre qu'il y a un cas de grippe porcine, en ville en plus, sans qu'il y ait eu contact avec des porcs.
L'Organisation mondiale de la santé dit que le virus apparu au Mexique et aux États-Unis est nouveau. La nouvelle souche réunit des éléments des virus porcins, aviaires et humains. D'après l'OMS, il est impossible de prévoir comment la situation va évoluer. Mais elle prévient que le nouveau virus a un potentiel de pandémie mondiale.
Nous l'avons évoqué plus haut. Le XXe siècle, cet abattoir à ciel ouvert, ce siècle d'écarisseurs, de charcutiers et de tripiers, a été inauguré par une boucherie, la Première Guerre mondiale. Cette boucherie s'est terminée avec la grippe espagnole, en 1918-1919, et qui a décimé entre 20 et 100 millions d'individus. Soit au moins 3 fois plus de morts que la boucherie des tranchées. L'hypothèse la plus plausible quant au développement de la souche du virus de cette grippe espagnole est un virus mutant, issu de l'interaction des populations humaines, porcines et aviaires. Faire porter scandaleusement au ladre toute la responsabilité de l'épidémie, c'est une façon d'omettre que l'homme est aussi, par nature, un parasite. Le porc en est, depuis des millénaires, à la fois le témoin privilégié et la victime expiatoire.
Ces cochons noirs, vous ne les voyez plus dans ce quartier du Caire. Les images datent de fin avril 2009. Il y a un an, en pleine panique mondiale face au virus H1N1, baptisé grippe porcine, les autorités égyptiennes décident de tuer tout le cheptel de porcs. Une mesure inutile selon les experts, mais les 300 000 porcs égyptiens partent à l'abattoir. Aujourd'hui, dans le quartier Manchayat Nasser, c'en est fini de l'élevage porcin pour les abélines, ces ramasseurs de poubelles, en majorité des chrétiens coptes.
Les ramasseurs de poubelles nourrissaient les cochons avec les déchets organiques des ordures, ce qui ne leur coûtait rien. Ensuite, ils vendaient la viande de porc, c'était un revenu supplémentaire. Depuis l'abattage des porcs, leur revenu a donc été divisé par deux.
Désormais, c'est le tri sélectif qui fournit aux abélines une nouvelle source de revenus. Verre et carton sont récupérés pour être recyclés. L'élevage de porc assurait quant à lui le recyclage des restes de nourriture. Rien n'a été prévu pour gérer ces déchets qui s'accumulent dans les bidonvilles de la mégalopole égyptienne.
Dans le monde animal, l'humain et le cochon sont des modèles d'exploitation, d'humiliation, de mépris, d'avilissement. À tel point que le cynisme ambiant ne se gêne plus pour affirmer l'inanité du besoin et de la volonté de transformer et d'améliorer les conditions de vie présentes. Ce serait, nous dit-il, comme vouloir jeter des perles aux pourceaux. Il est amusant de constater que dans cette époque qui nous est vendue technologique, compétitive, esthétique, festive, hygiénique, en temps réel, nous y vivons comme des porcs. Que tout y est fait pour que nous nous complaisons dans un état bêtement porcin. Mais le problème inédit dans l'histoire est, répétons-le, que l'homme moderne a toutes les caractéristiques du cochon moderne sans pour autant en être effectivement un. Il est amusant enfin de constater, suivant la dialectique moderne, que si, de l'être, le monde bourgeois nous a fait glisser vers l'avoir et le paraître, le miroir qui nous est aujourd'hui tendu nous renvoie quotidiennement l'image du goré impassible, image derrière laquelle se dissimulent tous les héros et les mythes contemporains, l'idéal de la vie en rose.
Petit cochon, tu ne travailles pas. Petit cochon, tu ne travailles pas. Tu bois du soleil, tu jouis de la vie. Tu trouves bien fait tout ce que le bon Dieu a fait. Mais petit cochon, tu ne travailles pas.
Tu dis avant d'écrire, il faut voir et flâner. Les lézards t'intéressent, les demoiselles aussi.
Tu t'emplis de tableaux, les deux mains dans les poches. Tu dégustes le temps, flâner c'est travailler.
Et tu vas voir, tout voir. Le bras d'herbe, les oies qui crient dans les étoiles, tu trouves tout bien fait, mais
petit cochon, tu ne travailles pas.
Tu as des idées pagaies, tu penses même à la mort, avec effroi quand il tonne
et sans peur quand il fait clair.
Tu ne chasses même plus, tu es un oiseau de répugne, n'ont-ils pas le droit de vivre, tu ne pêches même pas.
Les poissons te semblent aussi des êtres qui t'intéressent autant que les autres bêtes et qui luttent, qui existent.
Tu as des idées sereines, tu vois le bon Dieu partout, tu te fais élégiaque, tu dégustes le temps.
Mais petit cochon, tu ne travailles pas,
petit cochon, tu ne travailles pas.
Tu bois du soleil, tu jouis de la vie, tu trouves bien fait tout ce que le bon Dieu a fait.
Mais petit cochon, tu ne travailles pas,
petit cochon, tu ne travailles pas,
petit cochon, tu ne travailles pas.
Petit cochon, tu ne travailles pas.
Bonjour.
Bonjour, docteur.
Mais c'est pourquoi?
Qu'est-ce que c'est que ça?
Mais qu'est-ce que c'est que ça?
C'est copain.
Comment ça, copain? Foutez-moi.
Oui, copain, c'est son nom. On l'appelait copain comme cochon.
Mais pourquoi vous êtes venu ici? Je ne fais pas les bêtes.
Vous avez été si gentil la dernière fois, docteur.
Non, la dernière fois, je vous ai dépanné. Mais je ne suis pas vétérinaire. Essayez de comprendre ça, monsieur Guilin.
Docteur, il fait de l'anémie. Il ne mange pas.
Il fait de l'anémie? Mais bouffez-le, moi je ne sais pas ce que vous dire, moi bouffez-le! Allez hop, mademoiselle, dehors, tout ça, hop, du balai qui bouffe leur cochon, vous avez entendu? Bouffez-le!
Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon.
C'est bon!
La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon.
C'est bon!
Désormais je veux chanter le cochon, le pâté et le saucisson.
C'est bon.
Répétons sur ces airs polissons. Qui c'est qui est bon, c'est le cochon, c'est bon! Je pourrais dire bien des choses sur son talent. Il a la couleur des roses sans leur piquant. Et puis quand on a terminé les bons morceaux, reste de quoi faire des souliers et des pinceaux.
Et ça c'est beau.
Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon.
C'est bon, c'est bon,
c'est bon,
c'est bon, c'est bon.
La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon.
C'est bon, c'est bon,
c'est bon.
C'est bon, c'est bon, c'est bon.
Désormais je veux chanter le cochon, le pâté et le saucisson. Répétons sur cet air polisson.
Qui c'est qui est
qui
bon?
Qui c'est qui est bon? C'est le cochon, c'est bon.
Bon.
En ces temps de régime allégé, la résistance passe par le gobage effréné, driette du Mans. C'est une drogue, une friandise, à un tel point qu'on en planque dans les valises, comme Jean Gabin.
C'est bien.
Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon.
C'est bon, c'est bon, c'est bon.
Bon. la rate des rognons, la queue en tire-bouchon. C'est bon, c'est bon. Désormais je veux chanter le cochon, le pâté, le saucisson. Répétons sur cet air polisson. Qui c'est qui est bon, c'est le cochon, c'est bon. Le cochon est tellement sage qu'en son honneur, je vous délivre un message qui vient du cœur. Battons-nous pour les droits de l'homme avec raison, puisqu'on dit souvent que les hommes sont des cochons. 2, 3, 1, 12.
Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au charbon.
C'est bon,
c'est bon,
c'est bon, c'est bon.
La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon.
C'est bon,
c'est bon. Désormais je veux chanter le cochon, le pâté, le saucisson. Répétons sur cette terre polisson.
C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
Qui c'est qui est bon, c'est le cochon. C'est bon.
Aujourd'hui, la comédienne Marie-Hélène Braya et son mari Édouard Molinaro nous reçoivent. Marie-Hélène Braya, vous la connaissez, vous l'avez vue dans Claudine de Colette. Est-ce que vous avez eu d'autres animaux plus bizarres dans votre vie?
Oh oui, j'ai eu un animal très bizarre, enfin très commun, mais très bizarre comme animal, si vous voulez, de compagnie, c'est un cochon.
Ah bon?
Oui, qui s'appelait Hector, et qui était vraiment comme un chien, enfin qui me suivait partout, que j'adorais. Je l'ai connu tout peu bébé, évidemment, et je l'ai apprivoisé. Et c'est très très intelligent, un cochon.
Ah, par exemple, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait des...
Il me suivait partout, il était complètement en liberté, c'était à la campagne, il me suivait absolument partout, c'est un énorme... Il est devenu un gros monsieur, après, il était absolument...
Un grand monsieur ou un gros monsieur?
Un gros gras, mais il était d'une intelligence redoutable, extrêmement gentil.
Vraiment, très
et
confortable.
Puis, ça a été la plus grosse peine de ma vie, en ce qui concerne un animal, parce que malheureusement il avait été élevé pour qu'on en fasse des jambons et je ne sais quoi, des rillettes et tout, et il a été tué. J'ai plus jamais
Vous rencontrerez peut-être plus jamais un cochon dans votre vie?
Non, je crois pas.
Puis après, quand on se sera bien souvenu, quand fatigués de s'être souvenus, nos souvenirs ne seront plus que des loques, alors je te prendrai par la taille et nous irons nous promener à l'ombre des tilleuls mantes. Tu me souriras, je te rendrai ton sourire et dès lors, nous ne serons plus vraiment si ce que nous ressentons l'un pour l'autre, c'est de l'amour, de l'art ou du cochon.
Tu es mon porc, mon porc sauvage. Tu es mon porc et partout les porcs. Je sens ton odeur sauvage. Tu te penches sur moi et ne bouges plus du tout, parce que c'est comme ça avec les porcs. Quand ils ont vraiment très envie de toi, tu es mon porc.
On a démarré avec rien, sans aucun capital au début. On avait construit la porcherie sur un demi-hectare à peu près. Ce demi-hectare là était en promesse d'achat aux beaux-parents. Et pour construire, donc, on a dû emprunter au Crédit Agricole en gros 60 millions de centimes, dont 37 à peu près pour les bâtiments et 22 qui allaient pour le fonds de roulement, c'est-à-dire les animaux, l'aliment et tout le reste, quoi. Ça fait 3 ans qu'on a démarré et en fin de compte, on n'a rien touché. Tout l'argent qui est dégagé va pour rembourser les emprunts et payer les intérêts.
La petite maison tout en cochon a des fenêtres en saucisson. La petite maison tout en cochon a une porte de jambon. Voyez le toit en pâté de foie, la mezzanine en galantine, la cheminée en petit salé et le perron fait de lardons. La petite maison maison tout en cochon a des fenêtres en saucisson. La petite maison tout en cochon a une porte de jambon. Les lits sont doux tout en saindoux et la carpette en crépinette. Tous les coussins sont en boudin, les dessus de lit en salami. La petite maison tout en cochon a des fenêtres en saucisson. La petite maison tout en cochon a une porte de jambon. C'est bon.
On est tous des gros tas de viande inutile. Tous on ressemble à un élevage de poulets aux hormones. On est bien partis pour tous finir chômeurs et nos enfants ils seront comme nous. En plus gros. La la la.
le tir montrait les bonnes rimes. L'attention montait, t'y arrêtes.
Forcez, 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 forcez.
Massacré dans les abattoirs, oublié dans les laboratoires, marché dans les cités en bois, prisonnier derrière ton palois.
Forcez, forcez.
Les fumées cuites, en les cours du gouvernement, en Europe les robes trop vite, en les montant les Allemands.
Passez, passez.
Un antique, un temps morceau, dynamique qui part du bourreau, les sages qu'on tue à la violence, le temps devient l'ultra-violent.
Passez, passez.
D'un côté système monétaire, de l'autre l'ombre militaire, pour finir en règle en bon, à vous le sage, le soir et l'on.
Passez. Jeunesse immigrée,
solidarité.
La jeunesse en mer, le Front National.
La jeunesse en mer,
le Front National.
La jeunesse en mer,
le Front National.
La jeunesse en mer,
la jeunesse en mer.
Merci.
Il était une fois les trois petits cochons. Ils voulaient avoir leur maison bien à eux, mais chacun voulait construire à son idée.
La mienne sera grande.
Moi, je la veux petite.
Moi, elle sera de taille moyenne.
Eh bien, partons chacun de notre côté. Nous verrons bien qui de nous trois fera la plus jolie maison.
La tournation en voie au cours de bouchée. Et moi,
montré ni votre amour. Elle sera de glaçon, vous pleurez à votre tour, votre flamme sous sa glace.
Gros sur Mars,
envie au cheval de Troie contre 800 millions de Chinois.
Il était une fois, il était une tranche de foie dans l'Ouest, sacré bon Dieu, cuillère en bois. Il était une fois, il était une tranche de foie dans l'Ouest, cuit à la graisse de cheval de bois. Il était une fois, ah ouais mort, alors vive moi, mais qui tous chacun pour soi. Il était une fois, rejoue-moi de la trompette en bois, oh rejoue-en moi encore une fois.
Voilà, l'émission se termine. On vous rappelle que vous pouvez la réécouter sur le site de Radio Campus ou sur le blog de Zalap sur wordpress.com. Et si vous voulez nous écrire, on a toujours la même adresse, zapzalap@boom.org. On vous rappelle également que la fameuse revue finiséculaire Amère est toujours disponible pour la modique somme de 5 euros et gratuite pour les tolards. Vous pouvez vous la procurer dans toutes les bonnes librairies ou en écrivant à zamdatala@hotmail.com, zamdatala, Z-A-M-D-A-T-A-L-A. A noter d'ailleurs que les Zamdatala qui éditent cette revue ont un blog qu'on vous invite vivement à visiter, et qui se trouve à l'adresse suivante http://zamdatala.net/catégorie/blog. Sur ce, bonne soirée et à la semaine prochaine.
L'émission de B.
pierre de sang.
Je suppose que vous vous demandez ce que vous faites ici.
Je ne veux pas conclure un quelconque marché. J'ai démissionné. Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, ni me faire classer.